Dans la parole de Dieu, dans Ésaïe, au chapitre 9. Un message de Noël, à savoir triomphante. Vous savez, quand on se rappelle la naissance de notre Sauveur, j'aime aller dans l'Ancien Testament, comment c'est annoncé. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le Messie de Handel, mais ce qui fait que j'apprécie tant le Messie de Handel, c'est que mon ami, il part de loin. Tu sais, quand on écoute le Messie de Handel, on ne part pas juste comme dans Matthieu, puis il part de tout ce qui est annoncé par les prophètes, puis c'est chanté de façon majestueuse. Puis si vous avez jamais entendu le Messie de Handel, c'est un chef-d'œuvre. En passant, le monsieur Handel a écrit ça en 3 semaines. Puis, ben, écrit la musique, là. Fait que, oui, 3 semaines. Puis, tu sais, c'est parce qu'il n'y a pas juste un petit violon qui joue, là. C'est une orchestre au complet, une chorale au complet, puis des... Ah, c'est quelque chose. Et donc, avec cette pensée-là, j'aimerais qu'on lise les 6 premiers versets d'Ésaïe, au chapitre 9. Et on va considérer la conquête du Dieu vivant dans ce message de Noël 2020. Tout le monde est là, Ésaïe, chapitre 9. Évidemment, tout le monde se doute bien que c'est surtout le verset 5. On l'a même chanté, vous avez remarqué. Maintenant, plus d'un cantique, il y a eu des références au verset 5. Mais pour se situer plus exactement dans ce que le prophète communiquait, on commence au verset 1. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madia. Car toutes chaussures qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et sa domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Ah Seigneur, quel beau passage on a devant les yeux. Ouvre nos cœurs, nos pensées, nos yeux à ta magnificence, Seigneur. Toi qui es venu il y a 2000 ans, comme le roi du monde, légitime, celui qui est venu racheter ce qui avait été volé par l'usurpateur. Merci Seigneur que tu es le bon berger, le roi du monde qui est toujours bienveillant. Et Seigneur, on veut regarder à toi ce matin, que tu puisses avoir dans chacune des vies représentées ici la prééminence, la suprématie, parce que tu le mérites. Et parce que, Seigneur, on veut te glorifier. Non seulement ce matin au milieu de nous, mais dans chacune de nos vies. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est un message de Noël, bon, peut-être un peu différent. Faites-vous en pas, on va aller dans un passage de Noël. On va aller dans Matthieu, puis on va regarder quelque chose par rapport à la naissance de Jésus. Mais je voulais commencer là, parce que je voulais, comme je disais, qu'on ait ce côté-là triomphant de l'incarnation. C'est ce qu'on célèbre aujourd'hui, la venue de notre Sauveur dans le monde. Dieu fait homme, Emmanuel, Dieu avec nous. Et savez-vous quoi? Cette incarnation, c'est rien de moins que la conquête du Dieu vivant. C'est l'entrée triomphale. On parle des fois de l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Savez-vous qu'on peut dire qu'il y en a deux. Il y a celle sur le dos d'un âne qui a été prophétisée dans Zacharie. Mais Jésus, il est venu, bon, l'entrée triomphale de Bethléem, on peut dire, parce que, oui, c'était bien humble, mais c'était le roi du monde qui venait ici. Comment c'est prophétisé? Vous avez, dans le début du verset, la doctrine de l'incarnation, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Regardez comment c'est important, les mots. Un enfant, c'est l'humanité de Jésus. Un fils nous est donné, c'est sa divinité. On a les deux dans le même verset. Des fois, si quelqu'un vous parle de ça, juste ce verset-là, ça nous montre comment l'incarnation, c'est Dieu fait homme, prophétisé dans l'Ancien Testament, et évidemment accompli dans le Nouveau. Et Jésus est venu comme le roi du monde, le roi légitime. Satan, c'est le prince de ce monde, le voleur, celui qui a usurpé le royaume par la tromperie. Et Jésus est venu en tant que roi du monde pour rétablir son royaume glorieux, bon et d'une manière tout à fait unique. Il n'est pas venu avec tambour et trompette, il n'est pas venu avec les chevaux, l'armée. Il est venu dans l'humilité d'une crèche, dans une mangeoire d'un animal. Lui, le roi du monde, dans la plus grande humilité, il s'est dépouillé. Il a pris la forme d'un serviteur. Et ce que j'aimerais qu'on voit aujourd'hui, parce que c'est un jour de célébration, on célèbre cette incarnation, j'aimerais qu'on voit comment il y a toute qu'une connotation royale à cette incarnation. C'est pas n'importe qui est né, c'est le roi du monde. Et donc, j'aimerais qu'on regarde deux célébrations de la conquête du Dieu vivant. D'abord, on va s'en aller dans Matthieu, je l'avais dit, on s'en va dans Matthieu chapitre 2. La célébration de la conquête. Et vous allez voir, Jésus, dès le berceau, était déjà un conquérant. Et vous allez voir pourquoi. La célébration de la conquête. On va lire les versets 1 à 12. Ça relate, si vous dites roi mage, vous vous trompez. C'était des mages. La tradition dit que c'était des rois, c'était des mages, en tout cas, vous étudierez c'est quoi des mages. Mais dans la Bible, ici, ça nous dit que c'est des mages. Ça ne dit pas roi, ça dit mage. Jésus étant né à Bethléem, donc on est dans Matthieu 2, 1. En Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Le récit ici qu'on vient de lire des mages est bien révélateur quant à la royauté de Jésus qui venait de naître. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle le fait que Jésus était venu dans un royaume déchu, dirigé par Satan, afin de le conquérir. C'est pour ça qu'Hérode s'est donné toute la peine de savoir où était Jésus. Parce que lui, un roi de ce monde, hein, Hérode était un roi dans le royaume de Satan, dirigé par le prince de ce monde, il a tout de suite senti la menace d'un tel roi qui était né. Et même pas lui tout seul, Jérusalem avec lui. Pourquoi? Parce qu'un roi, ça règne. Un roi, ça l'établit, son royaume. Mais on sait, Jésus, son royaume n'est pas de ce monde. Jésus n'est pas venu détrôner Hérode de Jérusalem. Son royaume n'est pas de ce monde. Il est venu détrôner Satan lui-même pour prendre le règne légitime sur ce monde. Et maintenant, je veux juste que vous remarquiez, parce que vous dites, ouais, mais Jésus ne règne pas à Jérusalem. Attendez, ça, c'est plus tard. Quand je dis attendez encore une couple d'événements, là, l'enlèvement, tribulation. Puis quand le règne millénaire de Christ, ça va venir. Jésus va s'asseoir sur le trône de David, comme c'est prophétisé. Mais remarquez ici, comment règne ce roi qui venait de naître? Jésus, dès sa naissance, je vous l'ai fait remarquer par mon intonation, mais au verset 2, lorsque les mages se sont présentés au roi Hérode, ils ont dit, nous sommes venus d'Orient pour l'adorer. Puis aussitôt qu'ils ont vu Jésus en personne, c'est quoi la première réaction qu'ils ont eue? Ils sont prosternés et l'ont adoré. Lui, pas Marie. Marie n'est pas incluse dans l'adoration. Ils ont adoré Jésus. Pourquoi? Parce que c'est ce qui lui est voué en tant que roi, en tant que souverain. L'adoration lui est due. Et c'est comme ça, hein, parce que Jésus l'a dit aussi autrement, le Père recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà les adorateurs que Dieu recherche. Jésus est venu régner et conquérir de cette manière, avant même qu'il puisse ouvrir la bouche qu'il avait, parce que Dieu nous dit aussi dans les prophètes que Dieu lui a donné un corps, hein, il a pris un corps, avant même qu'il puisse s'exprimer, un tout petit bébé naissant, déjà, il commandait l'adoration devant lui. Ça, c'est la puissance du roi vivant, dont la présence même appel à l'adoration. C'est pas n'importe qui était né comme ça à Bethléem. C'était le roi du monde. Et si vous êtes ici puis vous écoutez, vous voulez jouir de ce règne bienveillant, parce qu'en passant, c'est le seul roi qui est bon. C'est le seul roi dont le règne n'est que bonté, amour, vérité. Et pour jouir de ce règne, c'est par l'adoration. L'adorer, se prosterner devant lui. C'est ça qui fait qu'on va apprécier sa bonté. Et c'est pas plus compliqué que ça. C'est ce que Dieu recherche, ceux qui l'adorent comme ça, en esprit et en vérité. Et c'est quoi ça veut dire adorer? Adorer, c'est vouer l'honneur à quelqu'un qui lui est dû pour ce qu'il est. C'est un dévouement. Un dévouement à une personne parce que elle mérite notre dévouement, notre adoration. D'ailleurs, on voit ça partout dans la Bible, des gens qui ont donné à Dieu l'adoration, le dévouement. Moi, Seigneur m'a rappelé souvent ces derniers temps, le livre de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel lui-même, il y avait un dévouement, ils ont adoré Dieu, mais c'était pas juste, ah oui, j'adore Dieu, non, ils étaient même prêts à payer de leur vie pour adorer Dieu. C'est-à-dire qu'ils adoraient Dieu et non les idoles, et non les hommes, et non tout le reste, c'est exclusif. L'adoration exige un dévouement exclusif à celui qu'on adore, l'adoration de Dieu. Maintenant, il y a toutes sortes de choses que les gens adorent de nos jours, dont je dirais peut-être la première chose, c'est soi-même. Mais le Dieu vivant, le Dieu qui est le seul vrai Dieu, mérite une adoration et un dévouement à lui qui sont exclusifs. Et savez-vous quoi? C'est absolument vrai en ce moment. Savez-vous, on est réunis ici. Dans un monde qui est de plus en plus hostile à toutes sortes de choses, mais aussi à Dieu, à son Église. Et notre adoration, notre dévouement sont exclusifs, non négociables. On adore le Dieu vivant.
Amen.
Et ça implique notre dévouement. Mm-hmm. J'espère qu'on est prêt à payer le prix. Pas parce qu'on veut être arrogant puis tout ça, mais parce qu'on n'a pas le choix. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. Comme Daniel. Remarquez aussi au verset 8. À la fin du verset 8, notre Hérode qui était ratoureux, sneaky, c'est-à-dire, il les a envoyés à Bethléem en disant « Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant quand vous l'aurez trouvé. Faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Le croyez-vous? En fait, remarquez que au moment même où le roi bien-aimé a reçu les hommages qui lui étaient dus, le roi Hérode lui prétendait l'adorer, mais on sait que son cœur était plein de haine meurtrière. On apprend ça, regardez au verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout le territoire, selon la date qui s'était soigneusement acquis auprès des mages. Ça ressemble pas à un adorateur. Ça ressemble à un trompeur. Pourquoi? Parce qu'il a refusé, il a repoussé la conquête. Le roi était venu pour conquérir en faisant de ses sujets des adorateurs. Et c'est ça que Hérode a refusé. Il a refusé de plier le genou devant ce roi du monde qui voulait simplement son adoration. Savez-vous que Hérode aurait pu devenir un adorateur du Dieu vivant? Mais il s'est mis lui avant Dieu. Quelle image du salut! Hein? On peut être le roi de notre propre vie, régner, vouloir ne fléchir le genou seulement que de ce qu'on veut, mais le salut, c'est quoi? C'est fléchir le genou devant le roi du monde, Jésus-Christ, le seul roi légitime. Et ça nous rappelle que rejeter le salut, c'est rejeter une personne. C'est rejeter une personne qui nous offre son règne bienveillant sur nos vies, qui veut conquérir sur nos vies. Puis mes amis, il veut conquérir le péché, il veut conquérir le mal, il veut juste conquérir ce qui est mauvais. Quelle folie de résister à quelqu'un qui veut comme ça régner. Ça montre comment notre nature humaine est rebelle par nature. Et si vous êtes ici et vous ne connaissez pas ce sauveur, vous ne rejetez pas juste des vérités ou les enfants, ce que vos parents vous disent, vous rejetez une personne, ce roi bienveillant qui veut régner sur vos vies pour le bien. Dieu n'essaie pas de nous rendre misérables et nous enlever toute la forme d'envie. Il veut nous rendre libres pour qu'on puisse enfin apprécier c'est quoi la vie.
Amen.
N'est-ce pas vrai que le fun que le monde promet, ça passe, c'est vain, c'est trompeur, ça n'amène qu'à l'esclavage. Mais Jésus a dit, si on le connaît lui, qui est la vérité, là on va connaître la vraie liberté. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, va vous rendre libres. Ah, puis pour nous chrétiens, que Dieu nous garde de la folie de tomber dans le piège, de la mondanité, de la chair, d'essayer de se servir de Dieu jusqu'à ce qu'on a besoin, mais vraiment qu'il nous convainque du besoin de le laisser régner. C'est un règne, c'est une domination, je prends des mots forts, c'est-à-dire que Dieu, c'est pas un règne négociable, puis dire ok, je vais régner sur ce bout-là, puis toi c'est... Dieu veut le règne total sur nos vies, puis qu'on comprenne plus il y a le règne total, mieux que c'est pour nous. C'est de la tromperie de penser l'inverse. C'est la tromperie de notre propre cœur, puis la tromperie de ce monde et du prince de ce monde. Et vous savez, les mages se sont quand même donné du trouble. Ils ont fait un bon voyage, puis à l'époque, là, ils n'ont pas pris... British Airways ou Qatar Airlines. Non, c'était un long voyage, puis il y avait des richesses avec eux, ils auraient pu être attaqués, puis tout ça. Ils sont donné du trouble, mais ça monte. Ils se sont dévoués, il y avait un dévouement pour adorer ce roi vivant. Et mes amis, je pense pas qu'ils l'ont regretté. Je pense plutôt qu'ils sont revenus de Bethléem avec un chant nouveau dans le cœur. Ça m'amène à mon deuxième point, le psaume 40. Vous connaissez le psaume 40? On en retourne dans l'Ancien Testament. Ah, quel beau psaume! Juste pour faire le lien avec ce que je viens de dire, je viens de référer au verset 4. « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. » Pour moi, ça retentissait cette affaire-là, cette vérité-là, dans le cœur des mages lorsqu'ils sont retournés chez eux. Puis pour s'imbiber un peu plus de ce psaume, j'aimerais qu'on prenne le temps de lire les 5 premiers versets du psaume 40. Au chef des chambres de David, psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Non seulement on a la célébration de la conquête qu'on a vue dans Matthieu, mais ici on a la célébration du Dieu vivant lui-même. La célébration du Dieu vivant. On aurait pu lire le psaume 40 au complet, mais les cinq premiers versets en donnent le ton, la teneur. Et vraiment, c'est une célébration ici de Dieu. Le psalmiste David se réjouit en son Dieu, se réjouit qu'il est le Dieu qui délivre, se réjouit qu'il est le Dieu qui met un cantique nouveau dans son cœur, qui vaut la peine de mettre sa confiance. Et ça nous dit, hein, au verset 2, « J'avais mis ma confiance, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. Dieu est vivant, Dieu répond aux prières. » Et verset 5, « Heureux l'homme qui place en lui sa confiance. » Ça vaut la peine de se confier en Dieu parce que Dieu est vivant pour répondre. Et même plus que ça, non seulement il s'est positivement confié en Dieu, mais la deuxième partie du verset 5 lui dit, « Il ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. » Donc, David, non seulement s'est confié en l'Éternel, mais il a refusé de se confier dans le secours de l'homme. Il a refusé de se confier dans le secours de ceux qui sont, avec justesse, appelés les hautains et les menteurs. Et David écrit, s'exprime ici comme un homme qui connaît ce roi du monde. Lui, il l'attendait. Il regardait vers en avant. Le Messie promis. Ce roi qui allait venir. Puis David est celui qui s'est fait dire par l'Éternel lui-même, « De ta descendance, il va avoir celui qui va s'asseoir sur ton trône. » Toute qu'une promesse, l'alliance davidique. Puis nous, on regarde à ce roi, ce même roi, mais on regarde par en arrière, qui est venu v'là 2000 ans, puis on célèbre encore. David le célébrait dans le psaume qu'on lit là des centaines d'années avant. Nous, on célèbre encore des centaines d'années après. Pourquoi? Parce qu'il est vivant, il a toujours été. C'est pour ça qu'on l'adore de tous les temps, parce que Dieu est vivant, il est adoré de tous les temps. Il n'y a pas un temps que Dieu n'est plus là, que Dieu ne peut pas être adoré en esprit et en vérité. C'était vrai pour David, c'était vrai du temps de Jésus, puis c'est encore vrai pour nous autres, parce que Dieu ne change pas. Il est toujours vivant. C'est ça, la célébration du Dieu vivant. On peut toujours se réjouir en lui, on peut toujours se confier en lui. Puis je rappelle que, comme pour David ici, notre adoration de ce Dieu vivant, notre célébration de ce Dieu n'est pas déterminée, ne dépend pas des circonstances. Parce que je vous rappelle ici, il a écrit étant dans la fosse, parce que c'est dit, « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. » Une image de Jésus-Christ, hein, le roc. « Il a affermi mes pas. » Et donc, ça ne dépend pas du fait de nos circonstances. C'est quoi qui va faire que je peux célébrer le Dieu vivant? C'est si je me confie en lui, si je mets en lui mon espérance, si ma confiance est dans son salut, sa délivrance. Donc, je veux juste amener ce point-là ce matin, bien important. Notre capacité à célébrer notre Dieu vivant, à se réjouir en lui. OK? Est relié directement à la confiance qu'on lui accorde lorsqu'on est dans la fosse, lorsqu'on a de la misère, lorsqu'on a besoin de son secours. Plus je vais me confier à lui là-dedans, plus grande va être ma célébration, parce que je vais voir, waouh, Dieu, je vais avoir une raison de me réjouir. Savez-vous qu'en ce moment, comme individu puis comme église, Dieu met devant nous une occasion unique de le célébrer, de le glorifier, puis de montrer comment il est bon, il est grand, parce que Dieu nous met dans une fosse, Dieu nous met dans des circonstances difficiles, puis il veut montrer son salut, il veut montrer sa délivrance, il veut montrer comment il est fidèle. Pourquoi? Parce que tout le reste, il fait tout pour sa gloire, pour que son peuple se réjouisse en lui, qu'on ait ce cantique nouveau qui résonne dans nos cœurs à la gloire de notre grand Dieu et Sauveur. C'est ça que Dieu veut en ce moment. Ça n'a pas changé, c'était vrai du temps de David avec lui, c'était, bon, et il y avait Saül qui le poursuivait, il s'est caché, et mettons qu'il ne l'a pas eu facile à ce moment-là lorsqu'il écrivait ces choses. Et pour nous, c'est pareil, Dieu suit encore le même but. Donc, pensez-y, J'aurais rien à célébrer si je me confie pas en Dieu. Quelle vie drabe, quelle vie moche. La vraie vie, c'est quand que on se confie en Dieu, quand que ça va pas bien. Là, on peut voir, waouh, Dieu est fidèle à sa parole. Dieu répond aux prières. Mais si je fais tout moi-même, je vais me réjouir de ce que moi je peux faire peut-être, mais je peux pas me réjouir en mon Dieu parce que je le vois pas à l'œuvre en réponse au fait que je me suis tourné vers lui. Comprenez-vous? Et Dieu en ce moment est en train de faire ça au milieu de nous autres. Donc c'est un grand sujet de joie, de célébration de notre Dieu vivant qui rencontre ceux qui se confient en lui, qui mettent en lui son espérance. Et je veux souligner, quand ça dit au verset 5, « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. » Savez-vous que lorsqu'on place en Dieu comme ça, notre confiance, ça dissipe, ça l'enlève, nos peurs, nos angoisses. Savez-vous que même statistiquement, c'est prouvé. Savez-vous qu'il y a une étude qui est sortie dernièrement qui dit que les gens... Bon, puis là, c'est quelque chose qui est calculable, qui assiste à l'Église au moins une fois par semaine. OK? Bon, on dit ce matin, on pourrait dire, ceux qui connaissent l'Éternel puis qui se confient en lui, OK? Mais ça se démontre aussi souvent, ils vont aller à l'Église régulièrement. OK? C'est ce que la statistique montre. Que, haut la main, c'est eux autres qui passent le mieux à travers tout ce qu'on est en train de vivre en 2020. C'est ce qu'on voit ici. Heureux l'homme qui place en toi, qui place en l'Éternel. Sa confiance, ça porte du fruit, ça change de quoi? On a quelque chose à se réjouir, on a quelque chose à célébrer quand on se confie en Dieu. Mais l'inverse est aussi vrai. L'angoisse, les peurs augmentent lorsque on se tourne vers les hautains et les menteurs. T'as pensé, ah oui, tu peux pas dire ça. Que tout homme soit connu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Fait qu'on se tourne vers n'importe qui, c'est des hautains et des menteurs. Puis on est dans le club, OK? On n'a pas besoin d'accuser les gens, on peut tous s'accuser. Je veux dire que tout homme soit connu pour menteur, Dieu seul pour vrai. Donc, on a le choix. Où est-ce que je fais reposer ma confiance? Qui est l'objet de ma foi? Qui? Je n'ai pas dit quoi, parce que ça doit être un qui. Il y en a juste un qui doit être l'objet de ma foi, c'est Dieu lui-même. Et la Bible nous dit, quand on croit en lui comme ça, on n'est pas confus. On a un appui ferme et certain. Je vais terminer avec une image. Une image vaut mille mots. En 1896, George Stratton a fait une expérience, lui qui était de l'Université de la Californie, je ne sais pas si c'était Berkeley, mais en tout cas, il a fait une expérience et voici ce qu'il a fait. C'était pour tester le lien avec le cerveau, la capacité visuelle et tout ça. Et il a fait des lunettes avec des miroirs dedans qui faisaient que quand tu mettais les lunettes, tu voyais le monde à l'envers. De même, OK? Tu sais, vous comprenez l'idée? Puis l'idée, c'est qu'aussitôt qu'il se levait, il mettait les lunettes, puis il les mettait jusqu'à temps qu'elle se couchait. OK? Puis là, au début, c'est ça, des maux de cœur, puis tout ça, puis il y a eu de l'ajustement, puis c'était pas évident. Mais il a fini un peu par... Tu sais, puis là aussi, tu étais là, tu veux toucher à ça, mais tu sais, t'as même pas en haut. Tout est à l'envers. Là. C'est vraiment, tu sais, il a fait de l'expérience, puis elle a été répétée aussi par après, là. Mais d'abord, OK, il était capable de, finalement, après du temps, bon, de faire ses affaires, mais tu sais, imaginez-vous, juste verser ton café, là, tu sais. Le café verse par en haut, là, c'est un peu mêlant, là, puis toutes les distances, puis tout ça. Fait, mais il reste à s'habituer, mais il ne s'est jamais vraiment habitué. C'est contre-intuitif. Même s'il l'a fait pendant, je ne me rappelle plus de la durée, je ne l'ai pas noté, mais même s'il a fait ça pendant longtemps, il y avait une lutte constante qui était là. Parce que c'est contre-intuitif de voir le monde à l'envers. Maintenant, savez-vous que célébrer un Dieu qu'on ne voit pas, qui n'a pas l'air de régner sur ce monde, puis qui a décidé de rester un peu dans l'arrière-plan, comme dans le livre d'Esther, puis d'attirer doucement et tendrement les pécheurs à lui par le Saint-Esprit puis la prédication de l'Évangile, savez-vous que c'est foncièrement contre-intuitif? C'est pas un film de super-héros. Ça flash pas, comme on dit. Mais si vous étiez, vous êtes un enfant de Dieu, vous avez des lunettes spéciales qui vous fait voir le monde à l'envers. Littéralement. Quand on est dans le royaume de Dieu, on est dans un royaume qui nous fait voir, puis vous savez, si vous êtes ici, vous avez le Saint-Esprit, vous êtes un enfant de Dieu, on voit le monde complètement à l'envers de ce que le reste du monde le voit, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle quand j'ai été sauvé, j'étais « Wow! » Puis là, c'est drôle parce que je voyais, en fait, on voit à l'envers de naissance, puis quand on rentre dans le royaume de Dieu, qu'on a les lunettes, là, enfin, on voit les choses sous le bon sens. Mais après, quand j'ai été sauvé, j'étais « Mon ami, comment ça, je voyais pas ça avant? » Là, tout faisait du sens. Là, je comprenais, tu sais, la science des saints, comme ça dit dans la Bible. C'est pas que je comprenais tout parfaitement, mais maintenant, j'avais la clé de la connaissance. J'avais le Saint-Esprit qui me faisait comprendre les choses. Wow, j'avais jamais compris ça de même. Et les enfants de Dieu, sont même, ils comprennent toutes les choses à l'inverse du monde. C'est pour ça que les béatitudes... Ah, nous, on se réjouit là-dedans pour trouver ce don merveilleux, hein? C'est les lois du royaume de notre roi. C'est pas selon le monde, pas en tout. En fait, vous allez les revisiter, là. C'est complètement l'inverse. Ou un autre passage, comme je vous lis Philippiens 2. Il n'y a pas grand monde dans le monde qui recherche les choses. Si donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans le monde, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Ça, c'est des lunettes complètement à l'envers de celles du monde. « Et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » C'est contre-intuitif, mes amis. Puis encore plus, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Puis ça continue en disant qu'il s'est complètement dépouillé. Kenosis, il n'a pas arrêté d'être Dieu, mais il a mis de côté certains attributs divins pour venir et s'incarner parmi nous comme on le considère dans cette journée de Noël. Qui n'est pas vraiment Noël, mais proche de Noël. Noël de notre Église. Pensez-y, il y a juste les enfants de Dieu qui se réjouissent des épreuves et de l'affliction. OK, peut-être pas au début, là, on est toute la nature humaine. Mais pensez-y, parce qu'on y trouve, on y découvre le Dieu de toute consolation. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas doux? Comment Dieu est suffisant dans toutes nos afflictions? Puis c'est là qu'il nous rencontre, lorsqu'on se confie en lui. Il y a juste les enfants de Dieu qui ont leur espérance ranimée dans des situations, des événements comme on vit en ce moment, là, des choses dures à expliquer et tout ça. Pourquoi? Parce que ça confirme que la parole de Dieu est vraie. Moi, je regarde les choses puis je parlais ça avec mon frère Jean-Pierre. C'est excitant, dans le fond. On est en train de voir la Bible s'accomplir. Je veux dire... Il n'y a rien à paniquer, au contraire, il y a tout à se réjouir. On voit sous nos yeux la parole de Dieu en train de s'accomplir. Pourquoi qu'on s'inquiéterait? Ça prend des lunettes à l'envers, par exemple. Les lunettes qui remettent à l'endroit. Parce qu'on voit à l'envers par défaut, puis ça remet à l'endroit. Mes amis, ça c'est parce qu'un jour, le Dieu vivant s'est fait connaître à nous. Je vais vous lire un passage qui, moi, me touche vraiment spécialement. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous en rappelez-vous quand c'était vous, ça? Mais maintenant, ça c'est un beau mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois, jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ça, mes amis, là. Ça, il n'y a rien qui compare à ça. Mes amis, ça, c'est les lunettes. Ça, c'est quand Dieu nous a donné la vraie vision spirituelle. Qu'on n'oublie jamais ça. C'est la chose la plus merveilleuse. Puis qu'on se rappelle que Dieu le fait encore. Juste une petite illustration. Cette semaine, j'ai eu la joie de voir quelqu'un qui est passé de mort à la vie.
Je ne l'ai pas vu sous mes yeux, mais il m'en a témoigné, puis il avait hâte de me voir pour ça. Un détenu. Ouais. Qui commence à me partager. Puis là, je dis, tu sais, à tous les détenus, je dis un peu la même chose, tu sais, il y a des choses que tu veux partager, de façon que je peux t'aider, tu sais, un peu comme général pour introduire. Il dit, je voulais te parler de ce qui est passé. Puis là, il me donne la date. Je me rappelle plus c'est quoi le jour exact, 2018. Enfin, je me demande, c'est quoi cette affaire-là, tu sais. Je le connais pas du tout, mais. Puis il me raconte son témoignage clair de salut. Quelqu'un lui a donné une Bible. Lui qui il a grandi avec zéro arrière-plan chrétien. En fait, c'est un Atikamekw qui est dans le fond de la forêt entre Chibougamau et le lac Saint-Jean. Puis il s'est retrouvé en prison, puis un détenu lui a donné une Bible. Il a commencé à lire la Bible.
Wow.
Puis le Saint-Esprit a touché son cœur au point que, je ne sais pas combien de temps qu'il l'a lu, exactement, il y a quelques semaines. Puis là, il dit, j'étais tellement sous la conviction. Il a confessé ses péchés au Seigneur, puis il dit, littéralement, j'étais en petite boule, puis je ne savais plus quoi faire, je capotais. Mais il dit, j'ai invoqué la miséricorde de Dieu. J'ai dit, Dieu, aie pitié de moi. Puis là, j'ai dit, j'ai senti ce fardeau partir. Mes amis, ça, c'est... Ça, il n'y a rien de plus merveilleux que ça, là. Il me raconte ça comme un enfant. Il connaît pas tout. Il m'a dit, c'est quoi exactement un chrétien? Ben, si, c'est mêlant, on entend toutes sortes de choses. Puis là, je suis allé dans Acte 11, ben, j'ai dit, c'est comme ça qu'ils ont appelé ceux-là qui suivaient Jésus. C'est des disciples de Jésus.
Amen.
Mes amis, qu'on n'oublie jamais d'où on était sortis, de la fosse dans laquelle on était. Puis Dieu nous a sortis de là pour lui-même, pour qu'on soit à la louange de sa gloire. Vous lirez Éphésiens chapitre 1. À la louange de sa gloire. En parlant de louange de sa gloire, je veux terminer dans le psaume 24, tant qu'à être dans l'Ancien Testament. Avant de lire le psaume 24, je veux juste amener un point important. Non seulement Dieu, avec ses lunettes spéciales, nous fait voir le monde sur le bon sens comme on devrait le voir, mais c'est quoi ce qui est encore plus précieux? Il nous fait voir lui comme aussi on devrait le voir. Avant, on avait une image de Dieu idolâtrique. On avait une image de Dieu déformé. On s'imaginait un Dieu qui n'existe pas, qui n'est pas selon ce que Dieu nous a révélé de lui-même. Mais lorsque Dieu nous a donné la vision, lorsqu'il nous a donné sa vie, ah! Là, on a pu connaître le vrai Dieu. Qui il est vraiment? Et il n'est pas fait de main d'homme. Il n'est pas selon l'imagination des hommes. C'est lui qui s'est révélé à nous dans sa parole et on peut le connaître. Et j'aimerais qu'on le regarde ici dans le psaume 24. Un psaume messianique. On va lire au complet parce qu'il n'est pas très long. Psaume de David. « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a des mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. » En passant, vous dites, ouais, c'est qui va être? Évidemment, la réponse, c'est Jésus-Christ. C'est comme quand on dit, c'est qui est digne d'ouvrir les seaux? C'est juste l'agneau de Dieu, c'est juste Jésus-Christ. Okay? Donc, qui ici qui est digne? C'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit que c'est un psaume messianique. Ça nous parle de celui qui est le seul qui est digne. Verset 5. « Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. » Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Deux fois la question est posée. Qui est ce roi de gloire? Et deux fois la réponse, l'Éternel des armées. Savez-vous quoi? Ce même Éternel s'est incarné il y a 2000 ans. Il est devenu chair. Il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Et ce roi qu'on célèbre à Noël, n'oublions pas, comme c'est prophétisé ici, il va revenir. Puis il n'est pas juste resté dans le tombeau, il a accompli la rédemption, puis il est allé au ciel, et se sont ouvertes pour lui les portes du ciel. Il est rentré triomphalement, ayant accompli la rédemption. Les portes éternelles se sont ouvertes pour l'accueillir, ce roi de gloire. Donc pourquoi ne pas faire comme on a considéré au début comme les mages, de se prosterner devant lui? Juste terminer comme ça, c'est ça mon appel. Allons à lui pour l'adorer. Lui qui règne, et juste lui laisser le règne, lui laisser de bon gré, l'adorer. Lui qui met dans nos cœurs un cantique nouveau, le célébrer pour qui il est. Seigneur, merci que tu es ce roi de gloire. Ah, pour un temps, tu t'es dépouillé de la grandeur de cette gloire pour venir t'humilier et vivre dans ce monde déchu. Ah, mais merci Seigneur que tu n'en es pas resté là. Tu as triomphé. Tu es le grand roi triomphant, tu as conquis. On te remercie pour ça Seigneur. Et ce matin, on vient humblement devant toi t'adorer. C'est devant toi qu'on fléchit le genou et devant toi seul, parce que c'est toi seul qui le mérite. Merci Seigneur. Merci que tu t'es fait connaître à nous par Jésus-Christ. Merci pour ton salut merveilleux. Et si quelqu'un ici ne le connaît pas encore, n'a pas encore goûté comment tu es bon par ton salut, qu'il n'a pas encore humilié son cœur devant toi pour reconnaître son besoin, Seigneur, qu'aujourd'hui soit le jour merveilleux de son salut. Comme ce cher prisonnier qui a témoigné qu'il est passé un jour de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan à ton royaume. Seigneur, c'est notre désir, c'est notre prière ce matin. Au nom de Jésus. Amen.